Ben-Hur, chapitre 39, témoignage de Ben-Hur sur le Nazaréen. Une heure plus tard, Balthazar et Simonide, qu'Esther accompagnait, se rencontrèrent dans la salle du palais. Ils avaient à peine échangé quelques paroles que Ben-Hur et Iras paraissaient ensemble sur le seuil de la porte. Le premier s'avança d'abord vers Balthazar et le salua. Puis il se tourna vers Simonide, mais à la vue d'Esther, il s'arrêta, évidemment surpris. Depuis qu'il n'avait pas revu la jeune fille, il avait subi bien des influences diverses, celles des événements, celles aussi plus directes d'Iras. Il avait laissé l'ambition s'emparer de lui, et cette passion, dominant un peu sa vie, avait balayé devant elle une grande partie des sentiments auxquels il obéissait autrefois. Et maintenant qu'il revoyait Esther dans le plein épanouissement de sa beauté, une voix s'éveillait en lui pour lui rappeler ses vœux, ses devoirs non accomplis, et lui faire reprendre possession de tout ce qu'il y avait de meilleur en lui. Il se remit bientôt de son étonnement et s'avança vers elle en disant « Que la paix soit avec toi, Esther, et avec toi, Simonide, toutes les bénédictions de l'Éternel, quand ce ne serait que parce que tu as été un père pour celui qui en était privé. » Esther l'écoutait, les yeux baissés, et Simonide reprit « Sois le bienvenu dans la maison de ton père, fils de Hur. Assieds-toi maintenant, et parle-nous de tes voyages, de ton œuvre et du mystérieux Nazaréen. Dis-nous ce qu'il est. Si tu ne te sentais pas à l'aise ici, qui donc le serait? Assieds-toi, je te prie, entre nous deux, afin que nous puissions tous t'entendre. » « Je suis venu en effet pour vous parler de lui, » commença Ben-Hur. « Je viens de le suivre pendant bien des jours, et je l'ai observé avec toute l'attention qu'un homme doit accorder à quelqu'un qu'il a attendu avec tant d'anxiété. » Je l'ai vu dans les circonstances les plus propres à mettre un homme à l'épreuve et à le forcer à se montrer tel qu'il est. Je suis certain maintenant que s'il est un homme comme nous, il est en même temps quelque chose de plus. « En quoi consiste ce quelque chose de plus ?» demanda Simonide. « Je vais vous le dire. » Il s'interrompit en entendant quelqu'un entrer et se leva avec un cri de plaisir. « Amra ! Ma chère vieille Amra !» Elle se précipita vers lui. Si grande était la joie empreinte sur son visage, que ceux qui assistaient à cette scène oubliaient combien ce pauvre visage était noir et ridé. Elle s'agenouilla devant lui, entoura ses genoux de ses bras et fit pleuvoir ses baisers sur ses mains. Quand elle se fut un peu calmée, il repoussa les mèches de cheveux qui retombaient sur son front et l'embrassa à son tour. « Bonne Amra, disait-il, n'as-tu rien appris d'elle? Ne t'ont-elles pas donné le moindre signe de vie ?» Elle éclata en sanglots, qui lui semblait être la plus éloquente des réponses. « Que la volonté de Dieu soit faite !» murmura-t-il d'un ton solennel. Ceux qui l'entouraient comprirent qu'il avait perdu tout espoir de retrouver sa mère et sa sœur. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais il se détourna afin qu'on ne pût les voir. Lorsqu'il fut redevenu maître de lui, il reprit sa place en disant « Viens t'asseoir ici près de moi, Amra. Tu ne veux pas? Alors reste à mes pieds. » car j'ai à parler à mes amis d'un homme extraordinaire qui est apparu dans le monde. » Au lieu de lui obéir, elle se retira au fond de la chambre, puis elle s'accroupit par terre, le dos appuyé contre la muraille, et croisa ses mains autour de ses genoux, ne demandant pas autre chose que de pouvoir contempler son jeune maître de loin. Alors Ben-Hur s'inclina devant les deux vieillards et reprit. « Je craindrai de répondre à la question concernant le Nazaréen. » avant de vous avoir raconté quelques-unes des choses que je lui ai vues faire, d'autant plus, mes amis, que demain il arrivera ici et se rendra dans le temple, qu'il appelle la maison de son père, où l'on prétend qu'il se proclamera lui-même. Ainsi, nous saurons demain, avec tout Israël, si c'est toi, Balthazar, qui a eu raison, ou toi, Simonide. » Balthazar serrait nerveusement ses mains l'une contre l'autre, et demanda d'une voix tremblante « Où donc pourrais-je aller afin de le voir ?»« La foule sera très grande. Le mieux sera, je crois, que vous vous rendiez tous sur le toit d'un des portiques, disons celui de Salomon. Pourras-tu nous accompagner ?»« Non, » dit Ben-Hur. « Mes amis auront besoin de moi, peut-être, dans le cortège. »« Le cortège ?» s'écria Simonide. « Voyage-t-il donc avec une si grande escorte ?» Il amène 12 hommes avec lui, des pêcheurs, des laboureurs, un publicain, tous gens appartenant aux classes les plus humbles. Ils vont à pied, sans se soucier du vent, du froid, de la pluie ou du soleil. En les voyant s'arrêter au bord du chemin à la tombée de la nuit pour rompre leur pain, puis se coucher pour dormir, je songeais à une compagnie de bergers retournant auprès de leurs troupeaux après avoir été au marché, et non pas à des nobles ou à des rois. Seulement, quand il soulevait les coins de son mouchoir pour regarder l'un ou l'autre d'entre eux, ou pour secouer la poussière de sa tête, je me rappelais qu'il est leur maître aussi bien que leur compagnon, et qu'il n'est pas moins leur supérieur que leur ami. Vous êtes des hommes intelligents. Vous savez que nous sommes sujets à nous laisser dominer par certains motifs, et que c'est presque une loi de notre nature que nous consacrions notre vie à la poursuite de certains objets. Si donc vous estimez que par cette loi-là, nous pouvons apprendre à nous connaître nous-mêmes, que penserez-vous d'un homme qui pourrait s'enrichir en changeant en or les pierres qu'il foule sous ses pieds et qui néanmoins reste pauvre par choix ?
Les Grecs l'appelleraient un philosophe, fit observer Iras.
Non, ma fille, dit Balthazar, aucun philosophe n'eut jamais une semblable puissance.
Comment sais-tu que cet homme la possède ?
Je l'ai vu changer de l'eau en vin, répondit vivement Ben Hur.
C'est étrange, dit Simonide, mais le fait que pouvant être riche, il préfère vivre comme un pauvre, me paraît bien plus étrange encore.
Il ne possède rien, il n'envie rien à personne, il a pitié des riches. Que diriez-vous donc si vous voyiez un homme multiplier 5 pains et 2 poissons, tellement qu'après que 5 000 personnes ont été nourries, il en reste assez pour remplir plusieurs corbeilles? J'ai vu le Nazaréen faire cela.
Tu l'as vu ? S'écria Simonide.
J'ai même mangé de ce pain et de ces poissons. Mais ce n'est pas tout. Que diriez-vous d'un homme qui possède en lui-même la puissance de guérir à un tel degré que les malades n'ont qu'à toucher le bord de son vêtement ou à crier à lui de loin ? J'ai aussi été témoin de cela, non pas une fois seulement, mais bien des fois. Comme nous sortions de Jéricho, 2 aveugles assis au bord du chemin crièrent à lui. Il toucha leurs yeux et ils virent. On lui apporta un paralytique. Il lui dit simplement « Lève-toi et t'en vas à ta maison ». Et cet homme marcha. Que pensez-vous de toutes ces choses ?
Le marchand ne savait que répondre.
Pensez-vous peut-être, comme je l'ai entendu dire à d'autres, que ce sont là des tours de jongleurs ? Laissez-moi opposer à cet argument le récit de miracles encore plus surprenant que je lui ai vu accomplir. Songez d'abord à cette maladie terrible, dont la seule issue est la mort, la lèpre.
À ces paroles, Amra laissa ses mains retomber à terre et se souleva à demi comme pour mieux écouter.
« Qu'auriez-vous dit, continua Ben Hur, qui parlait avec un sérieux grandissant, si vous aviez assisté à la scène que je vais vous raconter ? Un lépreux s'approcha du Nazaréen lorsque j'étais près de lui là-bas, en Galilée, et lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre net. » Il entendit ce cri et toucha le malheureux en disant « Je le veux, sois net. » Et voilà, cet homme redevint tel qu'il était auparavant, aussi sain de corps qu'aucun de ceux qui assistaient à cette guérison, et nous étions une multitude.
Ici, Amra se leva, et de ses longs doigts, elle écartait les cheveux épars sur son visage. Depuis longtemps, toute l'intelligence de la pauvre créature s'était réfugiée dans son cœur, et il lui fallait faire un effort pour comprendre. Un autre jour, poursuivit Ben Hur, 10 lépreux se présentèrent à la fois devant lui, et tombant à ses pieds, ils crièrent « Je les ai vus et entendus. Maître, aie pitié de nous !» Il leur répondit « Allez, montrez-vous au sacrificateur. » Et il arriva car en s'en allant, ils furent nettoyés. Leur infirmité disparut tandis qu'ils étaient en chemin, tellement qu'il n'en restait d'autres traces que leurs vêtements souillés.
Jamais on n'avait entendu raconter rien de semblable en Israël, murmurait tout bas Simonide.
Pendant qu'il parlait, Amra se dirigeait sans bruit vers la porte et se glissait hors de la chambre sans que personne prît garde à elle.
Vous pouvez vous imaginer les pensées que toutes ces choses soulevaient en moi. Cependant, ma perplexité devait grandir encore. Les Galiléens sont, vous le savez, vaillants et impétueux. Après tant d'années d'attente, leurs épées brûlaient leurs mains. Ils avaient besoin de passer à l'action. Il est lent à se déclarer. Forçons-le à le faire, me criait-il. Moi aussi, j'étais pris d'impatience. Et je me disais, s'il doit être roi, pourquoi ne serait-ce pas maintenant ? Les légions ne sont-elles pas prêtes ? Ainsi, un jour qu'il enseignait au bord du lac, nous nous disposions à le couronner, qu'il le voulût ou non. Mais il disparut et nous le vîmes ensuite s'éloigner du rivage sur un bateau. Bon Simonide, les choses que les hommes désirent à la folie, la richesse, la puissance, la royauté même, offertes en signe d'affection par tout un peuple, n'ont aucune prise sur lui. Dis-moi ce qu'il t'en semble. » La tête du marchand était penchée sur sa poitrine. Il la redressa en disant d'un ton résolu : « L'Éternel est vivant, et les paroles de la prophétie sont vivantes aussi. Son heure n'est pas encore venue. Le jour de demain nous apportera une solution à ces questions. » « Qu'il en soit ainsi, » fit Balthazar avec un sourire. « Qu'il en soit ainsi, » répéta Ben-Hur, « mais je n'ai pas fini. Quittons ces miracles. Ils ne sont pas assez grands pour être à l'abri des soupçons de ceux qui ne les ont pas vus de leurs yeux, comme moi. Et laissez-moi vous transporter en face de choses infiniment plus étonnantes, de choses considérées depuis le commencement du monde comme dépassant la puissance de l'homme. Dites-moi si jamais, à votre connaissance, quelqu'un avait pu arracher à la mort sa proie. Qui a jamais rendu la vie à un mort? Qui donc, si ce n'est Dieu ? » s'écria Balthazar d'un ton pénétré de respect. Ben-Hur s'inclina. « Sage Égyptien, qu'aurais-tu donc pensé, ou toi, Simonide, si vous aviez vu comme moi un homme détruire l'œuvre de la mort, sans beaucoup de paroles, sans cérémonie, sans plus d'efforts qu'il n'en faut à une mère pour éveiller son enfant endormi? C'était à Naïn. Nous allions entrer dans la ville. Quand des hommes en sortirent, ils portaient un mort. Le Nazaréen s'arrêta pour laisser passer le cortège. Il s'y trouvait une femme qui pleurait. Je vis une expression de pitié infinie se répandre sur son visage. Il parla à cette femme, puis il s'avança et toucha la bière, en disant à celui qui y était couché, prêt à être enseveli, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et aussitôt, le mort s'assit et parla. Retenez bien ceci, c'est que je ne vous parle que ce dont j'ai été témoin avec une foule d'autres hommes. En venant ici, j'ai assisté à un acte encore plus incompréhensible. Il y avait à Béthanie un homme appelé Lazare, qui mourut et fut enseveli. Il avait déjà été 4 jours dans le tombeau, fermé par une grande pierre, quand ils amenèrent le Nazaréen en cet endroit. Lorsqu'on eut roulé la pierre, nous vîmes tous cet homme couché et enveloppé dans son linceul. Nous étions plusieurs arrêtés à l'entour, et chacun put entendre ce que le Nazaréen disait, car il parlait d'une voix forte. « Lazare, sors de là !» Je ne saurais vous dire ce que j'ai éprouvé quand j'ai vu cet homme se lever et sortir vers nous, encore entouré des bandelettes qui avaient servi à son embaumement. « Déliez-le et laissez-le aller, » dit encore le Nazaréen. Et quand le linge qui enveloppait le visage du ressuscité eut été enlevé, voilà, mes amis, le sang coulait de nouveau dans ses veines, et il était redevenu exactement semblable à ce qu'il était avant la maladie qui l'avait mené à la mort. Il est vivant maintenant, et chacun peut le voir et lui parler. Vous le verrez demain, pour peu que vous le désiriez. À présent, je vous adresserai la question que tu me posais à moi-même, Simonide. Qui est donc ce Nazaréen? Car il est certainement plus qu'un homme. » C'était là une question solennelle, et longtemps après minuit, ils la débattaient encore ensemble. Simonide ne pouvait consentir à se départir de l'interprétation qu'il donnait aux paroles des prophètes. Et Ben-Hur assurait qu'après tout, les deux vieillards pouvaient avoir raison, et que le Nazaréen était peut-être à la fois le rédempteur que réclamait Balthazar et le roi désiré par le marchand. « Demain, nous saurons la vérité. Que la paix soit avec vous. » Après avoir pris congé d'eux en ces termes, Ben-Hur s'en retourna à Béthanie.